Les déferlantes. Quitter Paris fut laborieux mais symbolique. Il s'extirpait d'un fourmillement personnel sans but pour rejoindre le calme des vagues et des lises. Les retrouvailles seraient douces. Il ne pouvait en être autrement. Dans les rues encombrées de la capitale, à chaque feu, à chaque carrefour bouché, il repensait au marché d'Armel qui en avait imposé les règles. Il se sentait faible et lâche de choisir l'esquive plutôt qu'une négociation féroce. Il avait préféré se coucher, piètre joueur de poker. Du reste, à mesure qu'il franchissait les couronnes qui cerclaient Paris, ses contrariétés s'éloignaient. Édouard focalisait son énergie sur la soirée qui s'annonçait. Au volant de sa Volvo, il avait arpenté le boulevard Haussmann en pensant à Gaëlle, qui savait se contenter de trois fois rien, à ses goûts vestimentaires simples, à ce talent de transcender le bois mort en une nouvelle richesse. Qu'aurait-elle bien pu faire aux Galeries Lafayette? Elle avait la forêt pour se promener. En revanche, il ignorait la condition d'Élise, ses loisirs, ses envies, ses aspirations. Du lycée, il se souvenait de ses nombreuses lectures, de sa fantaisie, de ses robes, des couleurs, des fleurs, des pois, des rubans. À un âge où la norme était rassurante, elle ne ressemblait à aucune autre fille. Le petit aperçu récent sur la promenade au bord de la mer lui laissa penser qu'elle avait gardé ce trait de gaieté vestimentaire. Il avait hâte de découvrir le reste. Engagé sur la 13, il décida d'appeler Denis. Il n'avait jamais compris l'organisation du thérapeute qui disposait parfois d'après-midi entiers quand d'autres jours il consultait jusqu'à 21h. Et le rythme changeait d'une semaine à l'autre. Édouard avait donc pris l'habitude de l'appeler quand il en avait envie, et le laisser reprendre contact durant ses temps libres.
« Tu as de la chance, je suis entre deux rendez-vous. Un désistement de dernière minute. Je n'ai pas loin d'une demi-heure devant moi. Comment tu vas, lapin ?»«
Je viens de quitter Paris. » »«
Comment a réagi Armel ?»«
L'avais-tu prévenu que je la quittais ?»«
Bien sûr que non. Ce n'était pas à moi de le faire. Je l'avais préparé à toutes les éventualités possibles.
Pourquoi ?» Elle semblait considérer comme acquis le fait que je ne revienne pas avant même que je lui ai annoncé. À nouveau, Denis fut traversé par une étrange sensation. Ce clignotant d'alarme dans le brouillard, une lumière diffuse qu'on ne sait définir, quelque chose clochait. La réaction d'Armel aurait dû être plus violente. Il s'attendait à un effondrement. Il avait appris à la connaître en même temps qu'Édouard. Elle savait pour Élise. Elle s'était préparée au départ de son mari. Cette certitude l'étonnait.
« Tu es vexé ? » demanda-t-il.
« Un peu. »«
Surpris ? » ?»«
Pas toi ? » ?»«
Il vaut mieux qu'elle le prenne ainsi, non ?»
Édouard ne répondit pas, lancé à 130 km à l'heure sur l'autoroute. Il n'y avait pas réfléchi, n'avait fait que se laisser traverser par les événements sans les décortiquer. La voiture ralentit à sa place, à l'approche d'un camion qui en doublait un autre. Les deux voies étant bloquées, il était obligé d'attendre, de suivre le mouvement. Bientôt, il sortirait de ses contraintes.
« T'es encore là ?»«
Oui, je délibère. Et je reste concentré, je roule sur l'autoroute. »«
Ne veux-tu pas qu'on se rappelle ?»«
Tant mieux, si elle accepte ainsi mon départ. Et tant pis pour moi, j'y laisse des plumes. »«
Tu perds quoi ?»
Édouard lui exposa l'argument du notaire, les conditions pour qu'elle reste dans l'appartement, le plan qu'elle avait échafaudé, la spoliation qu'il ressentait.
« La garce, tu as dit oui ?»«
Je n'ai pas dit non. Si je résiste, elle déclare la guerre. Je n'en ai pas envie. » Édouard disposait d'une somme d'argent suffisante pour rebondir dignement. Ne lui restait qu'à digérer ce qu'il considérait comme une profonde injustice. Denis lui demanda s'il se sentait heureux malgré tout.
« Je ne me suis jamais senti aussi bien. » « Alors ne retiens que ça, mon ami. Et que dit l'homme des bois qui s'est éveillé en toi ?»«
Il respire. La forêt est belle, il faudra y venir. »
« Tu comptes y rester ?»«
Au moins le temps que je découvre quelques réponses aux choses étranges qui s'y déroulent. Des feux follets, des fées ?» Un magicien avec une longue barbe blanche et un chapeau pointu.
Moque-toi.
Des événements plus sombres, malheureusement. Édouard entreprit alors de lui expliquer Gauvain, son mutisme, cette violence évoquée par sa mère et qui semblait reprendre ses droits à la suite de circonstances liées à une jeune femme mystérieuse. Une situation dont il craignait l'évolution, démuni de n'être qu'ingénieur en génie électrique, là où il faudrait un peu de génie humain. « Écoute ton instinct. Il est là, le génie humain, » lui rétorqua Denis.
« Tu es quand même mieux formé que moi à ce genre de cas. Ce garçon a sûrement vécu quelque chose de difficile dans l'enfance qu'une situation aujourd'hui réactive.
Comment le faire parler ?
Pas en ayant cette idée en tête. Apprivoise-le, acquiert sa confiance. Passe du temps positif avec lui, il saura que tu es là pour le reste. Tu ne peux rien forcer. Juste attendre sans attendre. Laisser tomber le fruit, les mains tendues sous la branche, tu vois ?
Et sa mère ?
Pareil, qu'elle sache que tu es là. Tu sais, les gens sur qui nous pouvons compter quand nous en avons vraiment besoin sont rares. Ceux qui ne se défilent pas, ne trouvent pas de fausses excuses. Sois celui sur qui elle peut s'appuyer.
Nous nous connaissons depuis si peu de temps.
Certaines rencontres ne corrèlent pas leur valeur avec leur ancienneté. Les lampes se frottent et le génie humain sort directement.
Ce genre de magie t'est déjà arrivé ?
Avec toi, Benet, avec Diane.
Comme moi, avec Élise.
Voilà, des évidences qui impliquent un avenir, peu importe la forme que prendra la relation.
Parfois, on se trompe.
Et alors, tes automates ne t'ont jamais appris à recommencer quand tu te trompais ? Et pour Élise, tu t'es trompé.
Nous avons quand même perdu 33 années.
Tâche de ne pas perdre les 33 prochaines. Je te laisse. Ma patiente est arrivée.
Édouard se souvint alors des mots de Gaël pour décrire son fils, de ses blessures qui restent ouvertes longtemps. Celle d'Élise n'était pas refermée. Il roulait à vive allure vers la cicatrisation. À hauteur d'Avranches, son GPS lui annonça moins de 2 heures avant destination. Le soleil couchant peignait de couleurs pastel et douces la baie du Mont-Saint-Michel. Celui-ci émergeait de la brume crépusculaire avec la force d'un chevalier conquérant, brandissant son épée pour transpercer la nuit qui fondait sur lui. Forme massive et élancée, présence solitaire au milieu des flots, ce lieu portait un symbole de force et de courage contagieux dont se nourrit Édouard, le temps de contourner son écrin côtier. Le laissant derrière lui, il ne pensa qu'à Élise. Il avait peur. Les retrouvailles seraient aussi simples qu'émouvantes, aussi difficiles qu'exaltantes. Il se concentra pour tenir le volant sans trembler. Un message s'afficha sur l'écran du tableau de bord une demi-heure avant son arrivée. Coefficient de marée au plus haut dans 2 heures. Les vagues commencent déjà à gifler la digue. Spectacle magnifique. Carrosserie en danger. Parking à distance conseillé. À tout de suite, je t'embrasse. À cette saison, Valandré n'était plus peuplé que de touristes retraités ou étrangers et des habitants à l'année. En ce soir de grande marée s'ajoutaient quelques amateurs de sensations fortes. Il trouva une place de parking le long de l'avenue qui lançait à intervalles réguliers ses courtes rues vers la mer. Il coupa le contact et s'aperçut qu'il tremblait malgré tout. Un bruit sourd et intermittent annonçait les festivités. Le combat qui faisait rage entre la terre et l'eau rappelait les tirs d'obus autour de Coëtquidan. Édouard se sentait penaud, comme un petit soldat heureux, un drapeau blanc sur le cœur. Il sortit la bouteille et les chocolats qu'il glissa dans un sac en plastique, en y ajoutant le puzzle, sans trop savoir pourquoi. Il le prit comme un symbole rassurant. Peut-être lui en parlerait-il, peut-être pas. Il recouvrit le tout d'une veste polaire et de son ciré. Immobile devant la boutique d'Élise, son cœur battait aussi fort que la houle. Une vitrine faite d'une fenêtre et d'une porte constituait la devanture. On entrait dans la maison par une porte en bois bleu nuit, à gauche du magasin. Quelques minuscules fleurs dessinées entouraient son nom sur la sonnette. Il pressa. Le carillon finissait de vibrer quand il entendit les pas rapides d'Élise dans un escalier. Soudain, elle était là, devant lui. Et il avait 15 ans, le corps figé, le sang cristallisé de joie. Une vague terrible frappa alors la jetée à une dizaine de mètres, broyant le flot en une myriade de gouttelettes salées que le vent jeta sur lui. Élise le saisit par le col et le tira vers elle avec force.
« Entre donc, tu vas être trempé. »
Édouard sentait chaque centilitre de son sang redevenir visqueux et chaud et réinvestir ses muscles les uns après les autres. Il se souriait sans mot dire, comme s'il fallait se taire après tout ce temps. Le silence pour seule défense. Chacun cherchait quelque chose d'intelligent à formuler alors que les neurones étaient bâillonnés par le cœur. Pour la seconde fois, Élise prit l'initiative en s'emparant du sac auquel Édouard s'accrochait. Elle le posa au sol et se blottit contre lui pour qu'il l'entoure de ses bras. Il tremblait toujours, comme la maison qui absorbait les ondes de la jetée malmenée. Lui vibrait d'être bien mené. «
On va faire un tour sur la promenade ?»
proposa Élise. « Le phénomène est impressionnant, tu verras. » Elle disparut au fond du couloir et ouvrit une porte sous l'escalier d'où elle tira des bottes en caoutchouc et son poncho en toile cirée vermillon. Celui du « oui » dans le sable. Quand elle ajusta sa capuche avant de sortir de la maison, elle ressemblait au petit chaperon rouge. Édouard eut soudain une faim de loup. Le long de la digue, de nombreux badauds admiraient le son et lumière. Quelques photographes avaient posé leur appareil sur un trépied et l'avaient entouré d'un sac de plastique. Les éléments se déchaînaient en un spectacle fascinant. La nuit noire offrait aux vagues de se préparer dans l'ombre, en remous énormes, pour claquer et jaillir dans la lumière des réverbères comme des danseuses puissantes qui venaient fondre sur les spectateurs. Puis elle s'évanouissait sur le bitume et coulait vers l'océan en s'excusant d'être venue. Les suivantes surgissaient des coulisses, plus faibles, plus fortes, aléatoires et imprévisibles, telle une armée de sorcières aux mille pouvoirs. Et les passants de se mesurer à leur peur en s'approchant au plus près de ces harpies de mer sans pouvoir en prédire la virulence. Élise lui avait pris la main et la serrait un peu plus fort à chaque déferlante en se réfugiant derrière lui quand la vague devenait pluie. Ils marchèrent un moment vers une zone que les touristes désertaient, s'y arrêtèrent face à la mer et à leurs retrouvailles. Édouard se sentait à la fois minuscule et solide. Il avait, contre sa paume, une petite main frissonnante, celle de la femme qu'il n'avait cessé d'aimer, la véhémence du sang qui pulsait dans son poignet afin de réchauffer cinq doigts fins et froids confondus au sien le lui confirmaient. Il n'y avait que leurs deux mains entremêlées et une mer déchaînée qui les narguait, les testait, mesurait la force du lien. Face à une mer d'huile, elle ne se serait pas rejointe avec la même intensité. Aucun mot important n'avait encore été prononcé. Le crépitement des galets, à chaque reflux de l'eau, se faisait entendre au loin, là où ils s'amassaient en nombre contre la digue. Un roulis aux mille claquements sourds, un son pareil à nul autre, une musique unique que les natifs des bords de mer possédaient en eux comme une langue maternelle vers laquelle on revient et qui berce. Et puis, dans un même souffle, ils avaient parlé. Du moins, avaient-ils commencé leur phrase, surpris par celle de l'autre, simultanée? Ils en avaient ri. Des dizaines d'années de silence et choisir la même seconde pour se décider à dire « Je suis heureuse que… » mélangé à « Si tu savais comme… » Inutile de finir leur phrase, ils connaissaient les mots manquants, couverts par leur rire complice. Ils remontèrent la promenade et le passé d'une même évidence, sous les « ah » et les « oh » des passants qui commentaient les vagues. La puissance de leur retrouvaille méritait d'être ainsi acclamée. La petite entrée au pied de l'escalier accueillit leurs cirés trempés et leurs chaussures salées. Puis Élise l'entraîna vers le fond du couloir qui débouchait sur son atelier. Un espace réduit et fonctionnel. Une grande table en inox, une étagère qui courait sur le mur entier pour recevoir son matériel et la porte qui y menait vers la boutique. Élise rougit qu'il la découvre. Des stores opaques fermaient la vitrine et la porte. Des spots éclairaient les différentes étagères et le comptoir où trônait la caisse enregistreuse. « Tu as donc réussi ?»«
Je le dois à mamé. Elle a toujours vécu là. »
« Je sais.
Elle doit être fière de toi. C'était ton rêve. Tenir ta boutique, jouer à la marchande comme quand tu étais petite et voir la mer. »
« Oui.
Tu as envie ?
Je vends surtout en période touristique. Il m'a fallu 2 étés pour équilibrer mes comptes et me diversifier. Je ne paie pas de loyer, ce qui est déterminant. Je fais ce que j'aime, pas besoin de rouler sur l'or.
Édouard scrutait chaque détail autour de lui et retrouvait la fantaisie d'Élise. Un magasin minuscule et coloré, des étagères en bois bleu pastel couvertes de créations de toutes les couleurs et de toutes les tailles. L'harmonie régnait où que le regard se pose et l'ambiance était élégante et douce. Elle lui expliqua le principe de l'ikebana et la façon dont elle avait ouvert cet art à d'autres éléments que les fleurs. Ce plaisir qu'elle avait eu à apprendre différentes choses avec sa grand-mère et à les mélanger aujourd'hui. L'attrait particulier des clients pour ses œuvres culinaires. Sa nouveauté, les biscuits aux fleurs et la façon dont elle pouvait les arranger.
Elle est jolie, ta boutique.
Élise portait une petite coupelle dans sa main et y disposa quelques échantillons. Édouard la regardait évoluer derrière le comptoir. Un soupir doux se fraya un passage entre ses lèvres. La plus haute barrière était franchie. Élise était là devant lui et il était heureux. Il venait d'avoir son bac et tout était à inventer.
Et toi, tes rêves ?
J'ai recommencé à bricoler depuis ta lettre. Là où je loge,
là où tu loges ?
Élise, je suis parti me réfugier dans une chambre d'hôte à Brocéliande depuis quelques semaines. Une histoire incroyable.
Tu n'es pas marié ?
Si, plus ou moins, enfin, je t'expliquerai.
Tu es du genre à être plus ou moins marié ?
Dit-elle en riant.
De moins en moins. Et toi, tu m'intrigues de plus en plus.
Édouard raconta Suzanne, Gaël et son fils, le vieux voisin, l'atelier, les automates, les arbres, ses questions, les décisions prises, le tourbillon.
Tu fais quoi dans la vie ?
Je suis ingénieur en génie électrique pour la SNCF.
Ça te plaît ?
Non.
Viens. On va discuter en haut. Il y fait meilleur et tu dois avoir faim.
Tu veux prendre une douche pendant que je prépare ?
Il accepta volontiers.
Il remit ses baskets mouillées pour chercher quelques vêtements dans sa voiture avec pour consigne de tourner la clé derrière lui quand il reviendrait et de la rejoindre à l'étage. Il lui proposa de mettre le champagne au frais en l'attendant.
Édouard ne savait pas, en prenant ses affaires dans son coffre, s'il repartirait après le dîner, s'il chercherait un hôtel, s'il resterait la nuit.
Il n'avait rien anticipé et s'en trouvait plutôt léger. Sa femme, que l'absence de maîtrise angoissait, avait toujours eu besoin de tout prévoir, de tout régler en amont, de ne laisser aucune place à l'imprévu, au suspense, au risque. Leur vie de couple était réglée comme du papier à musique et il retrouvait cette rigueur dans son travail où aucune erreur d'aiguillage n'était tolérable. Lui, qui avait besoin de surprise, de liberté.
En refermant la porte d'entrée derrière lui, il eut l'étrange sentiment de s'isoler du monde.
Tourner la clé fit disparaître le restant de la planète et des hommes. Plus rien d'autre n'existait que la petite maison et la mer, qu'Élise et lui. La bulle qu'il s'inventait là était à la fois fragile et solide. Fragile de ce qu'elle contenait. 2 adolescents dont l'amour avait été mis en quarantaine et qui sortaient des parenthèses, hagards de manque et d'oubli, sans savoir s'ils se connaissaient encore. Bulle solide de résister à l'assaut des vagues, et ses chocs réguliers, toujours contre la digue, faisaient vibrer les carreaux, faisaient frémir Édouard. Certaines décisions avaient valeur de tremblement de terre. Tout s'écroulait, et tout devait être reconstruit. Cycle inlassable des vagues qui se brisent et se reconstituent. Sortir des décombres, poussiéreux et sonné, se savoir vivant, savoir l'autre vivante, celle qu'on cherchait depuis toujours, donnait la force de se retrousser les manches et de recommencer. Sonner, mais vivant. Et l'avenir, devant.